première chose à faire dans le cadre d'une mise en place d'une présence et d'une communication sur Internet pour vous, c'est déjà de prendre en compte votre e-réputation actuelle. Ou ça peut être aussi l'e-réputation, entre guillemets, je tords un peu le mot exprès, de votre domaine d'application. Parce qu'en tant que chercheur, vous avez tous le même privilège, c'est la plupart du temps quand même d'avoir un sujet de thèse assez précis qui n'est pas le même que celui de tous les autres. Donc vous bénéficiez quelque part d'une spécificité. Donc vous pouvez très bien aussi facilement savoir de façon assez exhaustive ce qui se dit sur Internet sur votre sujet. Donc c'est ce qu'on appelle à la fois les alertes et la veille. Qu'est-ce que sont les alertes? C'est en fait un moyen très simple de savoir ce qui se dit sur vous ou sur votre domaine, sur des mots-clés de votre domaine. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai très rapidement abordé ça. Vous avez un système, le plus simple, c'est celui d'aller dans Google Alert. Donc vous avez les onglets de Google et parmi ces onglets, vous avez notamment un qui s'appelle Alert, que vous pouvez configurer très facilement à condition d'avoir un compte Gmail. Et là, à ce moment-là, vous pouvez arriver à avoir en temps réel, ou après vous paramétrez, vous pouvez recevoir les alertes une seule fois par jour, vous pouvez avoir des mails qui vous arrivent concernant chaque nouvelle mention qui est faite soit de vous, soit des mots-clés que vous aurez paramétrés. Donc c'est un moyen très simple aussi de savoir comment on parle de vous sur Internet. Parce que évidemment, le but, c'est que les gens qui vous cherchent ou qui cherchent des personnes compétentes dans votre domaine tombent sur vous lorsque vous le désirez. Évidemment, ça je ne l'ai pas dit, c'est une évidence, c'est une lapalissade. Alors ensuite, je vous ai mis aussi un autre logiciel très simple qui s'appelle Mention. C'est un logiciel qui est gratuit, il devient payant seulement au-delà de 1000 alertes par mois et qui vous permet là aussi de savoir ce qui se dit sur vous, y compris sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, d'avoir une idée là aussi en temps réel de votre e-réputation. Je vous ai parlé aussi très rapidement de Google Reader. Là, on parle d'agrégation de flux RSS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça doit faire peur. Pour les autres, un peu moins, évidemment. Alors, de quoi il s'agit? Ben, vous savez que tous les sites d'information, notamment, et tous les blogs, ont une petite icône, celle que vous voyez à gauche, qui marque en fait le flux RSS. Ce flux RSS, je vous ai mis toute la procédure ici. Vous avez la possibilité de copier l'adresse du lien, une fois que vous cliquez droit sur le flux RSS, et d'aller là aussi, je ne suis pas du tout sponsorisé par Google, mais ce sont les outils les plus simples et les outils gratuits. Vous avez là aussi l'onglet Google Reader, vous marquez, vous copiez, vous collez, pardon, le lien que vous aurez copié sur le flux RSS, et vous le collez dans le petit rectangle sous la case s'abonner. Et là, donc, sur l'agrégateur Google Reader, vous allez recevoir en temps réel, là aussi, tous les articles du blog ou du site dès qu'ils seront publiés sur le site. Au lieu de devoir aller sur le site pour les voir, vous les aurez directement à ce moment-là sur votre agrégateur. Ce qui fait que, en un même lieu, vous pouvez retrouver la plupart des articles dans les domaines qui vous intéressent. Donc ça permet là aussi de faire ce qu'on appelle la veille, c'est-à-dire d'être au courant tous les jours de ce qui se dit dans votre domaine. Un autre outil très rapidement, c'est Scoopit. Scoopit, c'est un outil qui là aussi est gratuit jusqu'à 5 tableaux, on les appelle les topics, où vous pourrez là faire de la curation, c'est-à-dire sélectionner des articles et les épingler en quelque sorte dans des tableaux qui vous permettront, alors ça, ce seront des tableaux qui seront publics, donc qui seront à disposition des autres internautes. Vous pourrez aussi là présenter un profil, et donc ces tableaux vous permettront là aussi à la fois d'archiver les articles intéressants dans votre domaine et en même temps d'avoir une visibilité par rapport à l'agrégation de ces articles. On saura que c'est vous, et vous pourrez aussi mettre un lien vers éventuellement un blog, un site, une page, etc. pour être identifié en tant que spécialiste du domaine sur lequel vous faites une veille. Ensuite, il faut arriver au travers de tout ça à mettre en avant son profil de chercheur. Donc vous avez notamment ce qu'on appelle l'identité numérique. L'identité numérique, c'est celle qui va permettre l'e-réputation. C'est en fait l'ensemble des informations que vous allez mettre sur Internet vous concernant. Donc là, vous avez l'ensemble des ramifications de ce qu'est une identité numérique. Je ne vais pas revenir dessus. Comment vous allez pouvoir la construire? Déjà, vous avez des outils génériques, j'allais dire, des outils grand public, notamment des réseaux sociaux et des médias sociaux. Vous avez la possibilité d'utiliser un blog. J'ai mis entre parenthèses WordPress parce que c'est l'hébergeur de blog le plus connu, le plus malléable aussi, et celui qui figure en tout cas parmi les mieux référencés par Google. Donc via un blog, vous allez pouvoir à la fois mettre en avant vos communications, vos participations au colloque, vous allez pouvoir parler de votre expertise. Voilà, donc un blog, ça permet, là aussi, on est totalement dans ce que je disais tout à l'heure, la production de contenu. Via un blog, vous allez pouvoir au quotidien démontrer votre expertise et être référencé sur Internet par rapport à ce domaine d'expertise précisément. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez ensuite les réseaux sociaux professionnels. Vous avez Viadeo, 4,5 millions de membres en France. Viadeo, et on a coutume de le dire comme ça, déjà c'est limité à l'Internet francophone, ou en tout cas ça déborde très peu. Et en plus, on a coutume de dire aussi que c'est un peu spécialisé concernant les TPE, PME, et on voit quand même aussi beaucoup de cadres, mais à l'intérieur de ces structures-là. Donc c'est très bien, aussi beaucoup pour le réseau local, j'étends local à la France. D'accord ? Ensuite, vous avez LinkedIn. On a beaucoup moins, quelques utilisateurs en moins qu'en France, en tout cas, un peu plus d'un million en moins. Mais par contre, là, LinkedIn va être beaucoup plus intéressant dans le cadre du réseautage à destination des grands groupes et notamment des groupes internationaux. Et enfin, Twitter. Donc, Twitter, c'est 465 millions de comptes dans le monde, dont 8% sont français. Viadeo, LinkedIn, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? En quoi ça va être utile? Déjà par rapport au référencement. Il y a une très forte, un référencement assez conséquent. Le réseautage, parce que ça permet pour vous de rentrer en contact avec des gens que vous ne connaissiez pas forcément ou dont vous aviez entendu parler, mais là, d'être en contact direct avec. Vous pouvez aussi mettre en avant votre parcours, votre expérience, vos compétences, les langues que vous maîtrisez. Vous pouvez avoir des recommandations de la part des gens avec qui vous avez travaillé, notamment au sein des labos. Et notamment sur LinkedIn, c'est ça qui est très intéressant, vous pouvez à la fois faire figurer vos publications et aussi les concours, les récompenses que vous avez eues. Donc ça, c'est un aspect important, notamment pour le profil spécifique du chercheur. Vous avez aussi la possibilité de participer à des groupes sur LinkedIn, sur Viadeo aussi, qui sont en fait des groupes thématiques, des membres du réseau qui se réunissent pour parler, enfin pour parler, pour poster des messages concernant des sujets qui ont attrait à la raison d'être du groupe. Twitter, il faudrait faire une séance complète dessus. Twitter permet à la fois de se positionner en tant qu'expert sur un domaine en donnant aux autres internautes, aux autres membres de Twitter, des informations, notamment sous forme de liens, vers des articles importants pour leur domaine d'intérêt. C'est-à-dire que Twitter, vous allez vous positionner sur Twitter avec votre profil en moins de 160 mots, je crois. Vous allez dedans mettre les mots-clés qui correspondent à votre domaine d'activité, vos centres d'intérêt, et vous allez ensuite poster sur Twitter, tweeter donc, concernant ces domaines-là. Et en fonction de la qualité de ce que vous postez, de ce que vous tweetez, vous allez avoir de plus en plus de monde dans ce domaine-là qui va s'abonner à vous, qui vont devenir vos followers, comme on dit, et ces followers-là vont vous permettre de construire là aussi une communauté avec derrière des échanges directs qui vont être intéressants pour votre profil. Ensuite, vous avez aussi des outils qui sont spécifiques aux chercheurs à ce moment-là. Donc là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais je vous en ai présenté deux très rapidement. Academia.edu, donc là, c'est un réseau social qui est spécifique aux chercheurs et qui permet, là aussi, en créant son profil, en partant aussi de son équipe de recherche, d'échanger sur votre sujet, de poster des informations et d'être en contact avec d'autres chercheurs. Un autre s'appelle ResearchGate. Là aussi, bon, ce sont des réseaux anglophones et c'est un peu le même principe. Vous vous inscrivez et vous pouvez ensuite discuter sur ces domaines-là. Et pour conclure, je vais vous dire deux mots aussi de ce qui de l'ADUM. Donc l'ADUM, vous le connaissez certainement puisque c'est un annuaire électronique et un portail d'information qui est lié à Contact. Vous avez ici un annuaire électronique qui se présente comme une base de données. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ce genre d'outil est totalement complémentaire des autres, étant donné que vous avez une base de données qui est gérée par des gens qui ont une crédibilité très grande par rapport aux entreprises. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique du coup que lorsque vous allez avoir votre profil qui va circuler sur ce portail-là, les entreprises vont, elles, de leur côté, avoir la garantie que toutes les informations qui y figurent sont véritables, sont garanties, sont cautionnées quelque part par la crédibilité de ceux qui le tiennent. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi faire partie des années à venir sur le web, étant donné que la vérification des informations est l'un des prochains enjeux. Voilà, je laisse la parole à Pascaline qui, elle, va maintenant vous parler de l'importance à l'intérieur de toutes ces sphères de savoir utiliser le bon mot au bon moment.